Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme avec vous en ce 20 mars pour parler un peu de ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey, l'actualité, tout ça. Aujourd'hui sur ce nouvel épisode de la tasse de café LNH. Donc merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui à l'émission, ben tout d'abord j'ai avec moi, je vous le présente, Sébastien Deschambault. Comment ça va Seb?
Salut Nicolas, ça va très bien toi-même?
Ça va très bien, très bien. Seb, on va parler un peu aujourd'hui. Canadien de Montréal, bien évidemment. Ça a été hier une journée quand même assez rocambolesque. Là. On y reviendra parce que il y avait de la tension du côté de Laval, il y avait de la tension du côté d'Edmonton. On en reparlera plus tôt. Mais aujourd'hui, on va faire un tour aussi de ce qui se passe dans l'actualité aux quatre coins de la LNH. Plus précisément, je pense, la course aux séries dans l'Est. Hein, ça commence à, je ne veux pas dire brasser, là, mais... La situation semblait plus réglée il y a deux semaines que c'est le cas en ce moment. Ça s'est beaucoup resserré. Il y a des équipes qui ont de la misère. Puis au contraire, il y a des équipes pour qui ça fonctionne très bien. Alors, on va parler de tout ça aujourd'hui. Et on va terminer l'émission avec une discussion sur une équipe pour qui ça va vraiment pas bien, hein, les Penguins de Pittsburgh. Pas sur une bonne séquence, les Penguins. Et ça sent pas très bon pour les séries éliminatoires. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour cette équipe-là? Est-ce enfin la fin de... Pas enfin, non, mais est-ce la fin de toute cette ère-là de succès à Pittsburgh? Et quel est le prochain plan? On va conclure l'émission là-dessus dans notre partie plus discussion. Chers auditeurs, je vous dis, si vous nous écoutez sur le site de LNH.com, ben, sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes de diffusion. Faites une recherche, la tasse de café LNH. Vous allez nous trouver, vous allez pouvoir nous écouter quand vous êtes en déplacement, en marche, en autobus ou dans l'auto. Et abonnez-vous, comme ça vous êtes certain de ne jamais rater un seul balado. Seb, on se lance avec les Canadiens. Somme toute, belle performance hier du côté d'Edmonton. Moi, ça me surprend parce que c'est une défaite de 3-2 en prolongation, mais c'est fou à quel point cette équipe-là, les Canadiens, puis c'est pas seulement cette année, mais est capable de se présenter contre les meilleures équipes de la Ligue très souvent, puis tenir le coup. Et parfois, tu subis une défaite contre les Sharks de San Jose qui venaient d'en perdre, je pense, 11 de suite, là, si je me trompe pas. Là. On l'a vu quelques fois cette année. C'est les Oilers. Hier, c'est, souviens-toi, les Predators de Nashville qu'on avait été battre alors que Nashville avait... Je pense que c'est une séquence de 9-10 victoires de suite. Donc, mais belle performance là, hier du côté de Montréal. C'est rare que tu réussis à étourdir les Oilers d'Edmonton avec ta vitesse, mais on l'a vu particulièrement en troisième période hier.
Oui, puis tu parles des Canadiens qui se maintiennent contre les bonnes équipes. Depuis mon dernier balado, les Bruins de Boston en prolongation, les Oilers en prolongation, puis l'équipe là-dedans qui était la moins peut-être outillée pour leur donner du fil à retordre, les Flames de Calgary, mais là, c'est une défaite sans appel. Donc, c'est le signe d'une jeune équipe, mais une jeune équipe comme ça qui donne du fil à retordre à une des puissances de la Ligue, les Oilers d'Edmonton. C'est sûr que c'est un très bon signe pour les choses à venir, pour l'avenir de l'équipe. Va rester à trouver comment être du bon côté de ces matchs de un but-là, ce qui est peut-être
important, moi, c'est ça.
Oui, c'est ça. On voit qu'il y a énormément de matchs qui se décident par la marge d'un but cette année, les Canadiens. Donc, toujours, pas toujours, mais très souvent dans la partie. Par contre, plus souvent du côté des perdants que des gagnants. Hier, plusieurs joueurs qui ont tiré leur épingle du jeu. Un joueur puis qui on parle beaucoup des jeunes, puis avec raison, parce que c'est eux qui sont un peu le qui vont être le point central d'attention pour le reste de la saison, parce que là, on est en train de regarder qu'est-ce qu'on est en train de bâtir, qu'est-ce que ces jeunes-là vont pouvoir porter. Mais un joueur comme Joel Armia, hier, a joué un match inspiré. Malheureusement pour lui, il était aux bonnes
décisions
quand
terminé,
ça s'est terminé. Mais il y a des joueurs comme ça qui haussent leur jeu d'un cran dans les dernières semaines de la saison. Joel Armia en est un. Les joueurs comme Nick Suzuki, comme Juraj Slafkovský, Caden Goulet hier soir, beaucoup de belles choses qu'on peut observer présentement pour si on est partisan des Canadiens de Montréal. Donc un voyage qui se poursuit dans l'Ouest. C'est jamais des voyages faciles aussi, là, des longs voyages dans l'Ouest canadien, dans l'Ouest américain.
Terminé avec des défaites majoritairement. Tu as gagné une sur quatre, là, une sur cinq parfois.
Oui, puis des fois des défaites sans appel aussi là,
ouais,
qui font mal un petit peu là, au moral. Dans l'ensemble, ça reste une belle performance. On a vu que Connor McDavid peut à lui seul changer le cours d'un match. Là, on dirait que quand ça lui tente de mettre fin à un match, ben il met la switch à on, puis c'est réglé.
C'est pas compliqué, c'est facile. Prochain match des Canadiens, c'est jeudi, demain contre les Canucks de Vancouver. Canucks, que Ça se complique là, avec cette victoire-là des Oilers. Là. Bon, à Edmonton, on s'approche à 8 points des Canucks. Les Canucks qui ont encore beaucoup d'avance sur papier, mais on a 3 matchs de plus de disputés. Donc, déjà là, il y a quand même une possibilité de se rapprocher du côté des Oilers. Et on est sur Thatcher Demko. Donc, les Canucks, bon, j'ai quelques petits doutes. On dirait que cette équipe-là, il y a une statistique, Seb, tu vas pouvoir l'expliquer, le PDO, là, mais bon, c'est un peu ton pourcentage de chance dans tes résultats, là, ou quand tout fonctionne un peu trop. C'est ce qu'on voyait un peu trop chez les Canucks, on voyait beaucoup chez les Canucks cette saison, et là, c'est peut-être un petit peu en train de rattraper quelque peu. Là.
Donc, dans le fond, sans dire que c'est l'élément chance, c'est, on additionne, dans le fond, le pourcentage d'arrêt de tes gardiens, de l'ensemble de tes gardiens de toute la saison et le pourcentage de tirs de l'ensemble des joueurs. Un PDO qui est très élevé. Ça veut dire que, bon, on a peut-être joué de chance, soit que nos gardiens ont été sensationnels ou que nos tireurs ont été incroyablement précis, alors qu'un PDO bas signifie que, bon, nos gardiens n'ont pas fait les arrêts ou nos joueurs sont simplement malchanceux. Chez les Canucks, les deux éléments étaient dans le haut, donc on avait un PDO très élevé. À long terme, c'est le genre de statistique qui nous indique que c'est peut-être pas soutenable comme rendement. Mm-hmm. Et tranquillement, on est en train de se rendre compte que c'est ça qui se passe.
Oui, exactement. En plus, bon, comme je disais, quand tu perds Demko, Casey DeSmith, qu'on voulait pas à Montréal chez les Canadiens. Bon, on avait assez de gardiens aussi, là, mais qu'on voulait pas à Pittsburgh, ou appelle ça comme tu veux, là, parce que c'est de là qu'on a été chercher, qui là se retrouve dans le siège du conducteur devant le filet des Canucks. Alors bon, les Canadiens vont un voyage qui se poursuit, pas de match samedi, ensuite une rencontre dimanche contre le Kraken et par la suite mardi contre l'Avalanche du Colorado. C'est bon, ça sera pas facile de terminer ce voyage-là sur une bonne note, mais ensuite bon, on revient au Centre Bell pour quelques parties, pour une séquence de 5 parties à domicile, mais là on va en reparler la semaine prochaine. Seb, ce qui retenait l'attention hier avant ce match-là contre les Oilers au Québec, c'était bien évidemment l'arrivée de David Ranbaier du côté à Laval, avec le Rocket de Laval. Le 5e choix du dernier repêchage, les Canadiens ont décidé de l'amener. Après lui, il a passé la dernière saison à Kloten dans la National League du côté de la Suisse. Ça s'est pas très bien passé au niveau de sa saison. Les statistiques sont en baisse. Par contre, à Kloten, tout allait mal. On a eu 3 entraîneurs, même 4 entraîneurs, si tu calcules l'année dernière aussi. Donc, il y a eu un changement entre les deux saisons, puis ensuite 2 autres entraîneurs. Donc, ça a été un peu une saison difficile. Puis là, bien évidemment, il y avait beaucoup de gens qui s'inquiètent un peu du développement de David Ranbaier. Est-ce qu'on a fait le mauvais choix? On se souvient quand il a été repêché, là, il y avait quand même beaucoup de gens qui ont critiqué la sélection. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est à quoi a réellement ressemblé la saison de David Ranbaier en Suisse. Alors, pour ce faire, j'ai appelé Jonathan Fillon, qu'on a déjà reçu au balado. Il est commentateur pour la chaîne MySports. Alors, lui, il est en Suisse, il a vu cette saison-là, il a vu Ranbaier de près. Alors, pourquoi ne pas avoir le pouls directement de la Suisse? Alors, je vous laisse écouter cette entrevue que nous avons réalisée avec lui. On le rejoint à Fribourg. Il est commentateur des matchs de la National League pour MySports, en plus d'être animateur en studio. Bonjour, Jonathan.
Salut, Nicolas. Merci de me recevoir.
C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous, Jonathan. Tu es venu nous voir durant le temps des fêtes pour le championnat mondial. Mais là, on s'est dit, écoute, c'est plutôt rare qu'un joueur de la... Bon, il est pas suisse, bien évidemment, Ranbaier, mais il est autrichien, mais il évolue en Suisse cette année. C'est assez rare qu'on voit un joueur arriver de Suisse et avec autant d'intérêt pour lui là, faire le saut. Donc, je me suis dit, on va parler à quelqu'un qui a vu ses matchs cette année, qui l'a vu un peu de près à Kloten, bien évidemment, avec le HC Kloten. Alors, Jonathan, bon, une saison pour David Ranbaier qui... pas à la hauteur des attentes, je pense que c'est ce qu'on peut dire, ou certainement pas à la hauteur de ses attentes.
Ouais, écoute, je trouvais intéressant parce que tu m'as contacté pour qu'on en parle, je trouve. Parce qu'évidemment, moi, je reste quand même connecté à ce qui se passe en Amérique du Nord. Je suis beaucoup ce qui se dit dans les médias, que ce soit sur X, que ce soit dans les médias traditionnels, sur votre site Internet, sur les différentes plateformes, les blogs et tout. Je trouve que David Ranbaier manque un peu d'amour. Parce que plusieurs personnes jugent par rapport aux statistiques qu'il a démontrées cette année, qui sont en baisse par rapport à l'an passé, oui. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'une régression dans son cas? Moi, c'est là où j'ai un petit peu plus de difficultés et j'apporterai des bémols. David Ranbaier a eu une très grosse année, et pas seulement saison régulière, là, très grosse année en tout, avec l'an passé, la saison qui s'est prolongée en plus avec le Mondial Junior, avec le Mondial Senior, le repêchage, les allers-retours en Amérique, en Suisse, Autriche, parce que bon, c'est un Autrichien, mais il vient vraiment d'un petit bled autrichien tout juste à côté là, de la frontière suisse. C'est pourquoi d'ailleurs il évolue avec une licence suisse, parce qu'il a fait son hockey, son apprentissage de hockey mineur en Suisse. Donc, ça a été un gros été. Ensuite, il fait camp d'entraînement avec le Canadien de Montréal. Moi, je me suis entretenu avec lui lorsqu'il a fait son retour en Suisse. Et il l'a dit ouvertement, il était déçu d'avoir été retranché par le Canadien de Montréal parce que c'est un rêve pour lui d'atteindre les plus hauts sommets le plus rapidement possible. Est-ce qu'il était prêt à faire le saut dans la LNH tout de suite? Non. Donc, c'était normal ce retour en Suisse, mais c'était quand même un coup dur. Ensuite, il commence sa saison, il est blessé. Il y a un changement de coach également parce que là, beaucoup de personnes pointent du doigt, il y a eu trois coachs à Clotten. Oui, il y a eu trois coachs à Clotten, mais il faut dire que l'an passé, lorsqu'il a fait ouvrir les yeux à tout le monde, lorsqu'il a impressionné tout le monde, il y avait un entraîneur derrière le banc qui était Jeff Tomlinson. Jeff Tomlinson, c'est un très bon entraîneur de bonne réputation en Suisse qui réussissait à faire des petits miracles avec des petites équipes, qui réussissait à développer de très bons jeunes joueurs. Ryan Barrère est l'un de ses projets à lui. Il avait commencé en Swiss League. Il avait fait partie à 16 ans de l'équipe championne de Swiss League pour monter en National League. Et il lui faisait beaucoup confiance à son année 17 ans, donc son année de draft. Il était placé dans les meilleures dispositions. Clotten avait une bonne saison d'ailleurs, mais pour ennui de santé, Tomlinson a été obligé de se retirer du coaching de cette équipe. Donc, quand il fait son retour à Clotten, nouvel entraîneur, nouveau système de jeu, une équipe qui s'en va complètement nulle part. Et là, après, c'est sûr qu'on peut se fier aux statistiques, mais ce qu'il faut comprendre pour les gens qui ne sont pas familiers avec la Ligue en Suisse, le meilleur pointeur du championnat de la saison régulière, parce que ça vient de se terminer, là, nous, on vient de commencer les playoffs, c'est 63 points en 52 matchs. On est loin des standards de la LNH qui sont de 100 quelques points dans une saison avec McDavid qui fait des 140 points en 82 matchs. On est loin de là. Donc, pour un défenseur, il ne faut pas nécessairement, surtout à son âge, il ne faut pas nécessairement se fier aux statistiques. Il a un seul but dans sa saison régulière. C'est un but dans une cage vide, dans un filet désert. Par contre, Clotten, les défenseurs de l'EHC Clotten ont marqué 6 buts au total en 52 matchs cette saison. Donc, honnêtement, ce n'est pas Ryan Barrère qui a joué une mauvaise saison. Il était dans une mauvaise équipe. Moi, je pense qu'il a simplement voulu trop en faire parce qu'il était le meilleur joueur et le meilleur défenseur de cette équipe-là. Mais lorsque tu as 18 ans, que tous les regards sont tournés vers toi, que tu as beaucoup de pression, que tu arrives, tu te blesses, changement d'entraîneur, deuxième changement d'entraîneur, troisième changement d'entraîneur, ça en fait beaucoup. Et moi, je le voyais faire des erreurs qu'il ne faisait pas à son année 17 ans simplement parce qu'il voulait être partout sur la patinoire et voulait en faire trop. Maintenant, avec son retour en Amérique du Nord, là, Kent Hughes a mentionné en début de semaine qu'il ne jouerait pas avec le Canadien de Montréal cette saison. Il va rester à Laval et je trouve que c'est une très bonne décision. Il doit resimplifier son jeu comme il était capable de le faire l'an passé parce que David Reinbacher, ce n'est pas un défenseur flashy. Ce n'est pas quelqu'un que tu vas voir jouer. Ce n'est pas un Quinn Hughes. Ce n'est pas un Cale Makar. C'est un défenseur qui est responsable défensivement, qui est efficace, qui garde les choses simples, et c'est comme ça qu'il connaît du succès.
Tu le verrais dans quel moule, si tu avais à comparer un joueur? Question piège, là.
Oui, question piège. Je sais qu'il a été jumelé à Caden Goulet au camp d'entraînement du Canadien. Je pense que Goulet peut amener un petit peu plus d'attaque que Ryan Barrère, mais je les mettrais un peu dans le même moule, peut-être un petit peu moins physique que Goulet. C'est un droitier. Il n'aura pas l'attaque, l'aspect offensif d'un Logan Mailloux, je ne penserais pas, ni de Justin Barron. Par contre, il va être plus efficace défensivement que ces deux-là. Je pense qu'il peut être un très bon complément à un gars qui a besoin d'un défenseur un peu plus sûr pour appuyer l'attaque. Est-ce qu'il pourrait être un complément à Herbert Jacquay, qui a prouvé qu'offensivement, il est capable d'ajouter à l'attaque du Canadien, ce qui peut être un complément à Caden Goulet, ce qui permettrait à Goulet de s'exprimer un peu plus offensivement. Parce que là, avec Michael Madison, ben, il est obligé de penser un peu plus défensif parce que Madison est un peu plus à risque. Lane Hudson, est-ce que ça pourrait être éventuellement un bon fit? Moi, je pense que oui. Ce sont deux défenseurs complètement différents, mais qui pourraient être complémentaires. Moi, le dernier match que j'aurais commenté dans ma carrière ici en Suisse de David Reinbacher, ça s'est passé en fin de saison face à Genève Servette. C'était un des meilleurs matchs de la saison de David Reinbacher. C'était une des meilleures séquences d'ailleurs de Kloten qui avait enligné 5 victoires consécutives. Et Reinbacher, je me souviens d'un jeu, là, c'est encore très clair dans ma tête. Il prend la rondelle dans sa zone, se met à patiner. C'est pas un défenseur hyper explosif, mais c'est un défenseur qui a une très bonne glisse et qui a une très bonne vitesse de pointe. Et il décide d'appuyer l'attaque, s'amène en zone adverse, se lève la tête. Il n'y a absolument personne pour venir l'aider. Qu'est-ce qu'il fait? Il met le puck au fond, essaie un jeu, met la pression. Donc, se compromet en attaque. Genève repart en contre-attaque, jeu de transition rapide. Qui est le premier dans son territoire en back-check? David Reinbacher. C'est exactement ça. C'est un gars impliqué. Moi, quand je suis allé voir des entraînements de Kloten, c'était toujours le dernier sorti de la patinoire. C'est un gars qui fait de l'extra, qui fait du temps supplémentaire sur la patinoire. C'est un gars qui veut s'améliorer. Laissons-lui le temps de le faire à 18 ans seulement. Je trouve que les gens ont été durs envers lui parce qu'évidemment, moi, je n'aimais pas les comparaisons. Quand il a été drafté, quand il a été repêché l'été dernier, les gens regardaient sur les Elite Prospects de ce monde, les sites de statistiques, et ils disaient il a eu autant de points ou plus de points, je ne me souviens plus trop, que Romagnosi à son année de repêchage alors qu'il jouait avec Berne. C'est pas le même défenseur que Romagnosi.
T'es pas aussi bien entouré à Kloten qu'à Berne.
Kloten et Berne, c'est deux mondes complètement différents. Mais il faut garder en tête que David Reinbacher, dans une mauvaise équipe, était tout de même le meilleur défenseur, le meilleur joueur de cette équipe-là. Je pense qu'il s'est perdu dans cette année-là. Mais il faut dire que Reinbacher, moi, j'ai trouvé que c'était un garçon articulé, intelligent, terre à terre quand je l'ai rencontré. Vraiment, il m'a impressionné pour un garçon de 18 ans. Moi, j'en ai 31, puis je n'avais pas l'impression de parler à un « kid », je vais le mettre entre guillemets, à un « kid » de 18 ans. Je le trouvais très mature dans ses réponses, dans comment il abordait tout cet été, cette pression qui vient avec le marché montréalais. Mais je pense qu'il s'est quand même fait, à un moment donné, prendre dans le jeu parce que rapidement, il y a eu des journalistes de la presse, il y a eu des journalistes de différents médias canadiens, québécois, qui sont venus le voir en Suisse. Et je pense que ça lui a mis une pression. Et il a vu qu'en fait, il voulait s'en mettre plus sur les épaules pour impressionner, pour dire « oui, je valais ce cinquième choix ». Mais en fait, je pense qu'il le vaut, mais il va le valoir dans quelques années. Ça reste un jeune défenseur.
Mais là, t'écouter parler, il était temps qu'on fasse le saut de l'autre côté de l'Atlantique là, pour Reinbacher. Oui, hein?
Ouais, honnêtement, il y avait, surtout avec cette équipe-là, il était temps que cette saison se termine pour Kloten. Parce qu'en ce moment, Kloten, il n'apprenait plus rien. Il n'était pas mis... Oui, il avait encore du power play. Oui, il était dans toutes les situations de jeu. Mais l'équipe allait tellement nulle part qu'il voulait en faire trop, en faire plus pour aider son équipe, mais il se nuisait, je pense, à lui-même. Il perdait de la confiance en son jeu. Donc, surtout que le dernier changement de coach, le coach qu'ils ont amené, Stéphane Mahir, c'est un Italien qui avait de l'expérience dans le championnat suisse, surtout en Swiss League, donc la deuxième meilleure division en Suisse. Mais c'est un coach vraiment d'énergie. C'est pas un tacticien, c'est un motivateur. Mais c'est un gars qui est souvent détesté par ses joueurs, souvent aimé par ses joueurs. Donc, c'est pas un gars qui va replacer son équipe tactiquement, qui va redonner confiance à des gars comme Reinbacher. Donc, honnêtement, je pense qu'il était temps qu'il traverse en Amérique du Nord, que le message, parce que la direction du Canadien à Laval, j'espère qu'elle est la même qu'à Montréal, là, il va grandir dans le moule du Canadien de Montréal et je pense que ça va être pour lui le plus grand bien, surtout qu'avant d'entamer la prochaine saison, il va avoir eu de l'expérience sur les petites patinoires. Surtout, moi, je pense qu'il y a une barrière. L'un des aspects qu'il va devoir améliorer aussi, c'est son aspect physique du jeu. C'est un grand bonhomme, il est lourd. Maintenant, il faut qu'il utilise cet avantage-là pour lui. Comme défenseur, il faut qu'il sache bien utiliser son corps. Maintenant, il est futé, Reinbacher. Donc, en ce moment, il réussit à utiliser son patin pour se sortir de situations close, des one-on-one, des un contre un le long de la bande.
Les batailles le long devoir, de la rampe, oui, c'est ça.
Exactement. Mais il va devoir, avant longtemps, le faire avec son physique et non pas seulement avec son patin parce que dans la LNH, les joueurs ont du patin beaucoup plus qu'ici en Suisse, même si c'est un jeu rapide.
Donc, va terminer la saison avec Laval. De vrai, là, bon, à moins que finalement, on se rende compte qu'on veut lui donner un essai avec le grand club. Mais va terminer, va aller chercher cette expérience-là qui lui manque en Amérique du Nord, ou du moins commencer à l'acquérir, parce que c'est pas la même grandeur de patinoire. Il y a beaucoup de différences, tout ça, avec l'habitude du jeu. Mais il a fait 4 entraînements l'année dernière. Déjà là, il va avoir une petite longueur d'avance sur quelqu'un qui s'amènerait, qui n'a bon, pas cette expérience. Il avait fait 4 des recrues aussi, si je ne me trompe pas. Donc,
camp développement, camp des recrues.
C'est ça. Donc, avait fait la totale avant d'être retourné en Suisse. Tu t'attends à quoi comme suite pour lui? Laval encore l'année prochaine, tu penses que ça va être nécessaire ou on peut tout de suite commencer à se battre pour un poste avec le CH l'année prochaine?
Non, honnêtement, je pense, si je regarde l'organigramme de la brigade défensive du Canadien de Montréal, honnêtement, Logan Mailloux et Justin Barron sont devant Reinbacher pour l'instant dans le développement. Ils sont rendus beaucoup plus près de la LNH que peut l'être David Reinbacher. Et je pense que le Canadien de Montréal, de toute façon, l'an prochain, ne sera pas une équipe aspirante à la Coupe Stanley, on va être honnête.
Ce serait étonnant, non, effectivement.
Ce serait étonnant. Pourquoi ne pas être patient avec lui, lui donner justement... Regardez à quel point Logan Mailloux, dans toute sa saison, il a progressé. À quel point un passage à Laval pour Arber Jacquay a été bénéfique.
Oui.
C'est exactement ce qu'a besoin David Reinbacher. De jouer dans la Ligue américaine avec le Rocket de Laval, en plus, c'est un bel environnement. Tu es tout près de Montréal. D'ailleurs, il avait adoré la ville de Montréal. Vraiment, il n'y avait que de bons mots, son passage et tout. Il est resté en contact avec des Goulets, avec des joueurs du Canadien. Mais laissons-le dans la Ligue américaine, justement pour retrouver cette confiance qui lui manquait cette saison, pour retrouver le jeu qui lui est propre, pour s'habituer. Tu vois, moi, quand je lui ai parlé, je lui ai demandé la plus grande différence qu'il avait vue entre ce qu'il avait pu connaître en Amérique du Nord, le peu qu'il a pu connaître, et en Europe. Et tout de suite, il m'avait dit... À chaque entraînement, on travaille dans des situations d'espace clos. Mes réflexes ne sont pas les mêmes parce que mes angles ne sont pas pareils, parce que la grandeur de la patinoire change beaucoup, tout ça. Il est mieux d'apprendre ça dans la Ligue américaine de hockey. Les Devils du New Jersey ont fait la bonne chose avec Simon Nemec l'an passé, de le laisser toute la saison dans la AHL. Reinbacher, je pense qu'il n'était pas aussi près de la LNH que l'était Simon Nemec au moment de son repêchage. Donc, même s'il passe une année de plus dans la Ligue américaine, je ne pense pas que c'est négatif. De toute façon, sur le flanc droit du Canadien de Montréal, il y aura encore David Savard l'an prochain. Il y aura peut-être Logan Mailloux. Goulet, pour l'instant, joue à droite avec Madison. Kovacevic, qu'est-ce qui va se passer? C'est un point d'interrogation. Je pense que Reinbacher, sa place, elle est dans la Ligue américaine l'an prochain. J'espère que ça va être ça, la ligne qu'on va suivre.
Donc, ça nous dresse un portrait là, de ce qui s'en vient pour les prochains 12, 13, 14 mois pour David Reinbacher. Jonathan, merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir fait une nouvelle présence.
Oui, c'est toujours un plaisir. Quand tu veux, Nick. Puis moi, je trouvais important parce que moi, c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié commenter dans les deux dernières saisons qu'on l'a eu ici à Clotten. Et je trouvais important un peu de... Je lis beaucoup de choses, puis je me dis, est-ce que les gens prennent vraiment le temps de comprendre la réalité dans laquelle il vit. Il y a beaucoup de pression, évidemment, avec un haut choix de repêchage du Canadien de Montréal, mais on le voit avec Slavkovski. Son année de 19 ans était complètement différente de son année de 18 ans. Laissons le temps, surtout un défenseur, c'est souvent plus long à se développer. Laissons le temps à Reinbacher de le faire également parce que je pense qu'à terme, je pense que lorsqu'il aura atteint son développement, ce sera un sacré bon défenseur pour le Canadien de Montréal. Moi, j'en suis convaincu avec ce qu'il a montré. N'oubliez pas qu'à 17 et à 18 ans, il avait un rôle majeur dans une équipe, oui, de fond de classement, mais un rôle majeur en National League. C'est hyper rare. Voilà.
Les gens suisses peuvent te regarder. Bon, comme tu disais, vos playoffs sont commencés là, là-bas. Là, tout ce qui est les étapes de relégation, justement, où Reinbacher a été impliqué. Là. Bon, c'est terminé. On peut suivre. Toi, tu vas aussi décrire des matchs de la LNH ici et là, d'ici à la fin de la saison
évidemment.
Aussi.
Évidemment. Donc, nous, on est diffuseur officiel de la LNH en Suisse. Donc, souvent, on commente en français et en allemand parce qu'évidemment, on a MySports Suisse-Romand et MySports Suisse-Allemand, les matchs à heure européenne de la Ligue nationale de hockey. Puis oui, nous, nos playoffs, évidemment, bon, Nous, avec trois langues officielles, en fait, quatre langues officielles, tout est en anglais. Donc, on n'a pas la loi 101, tout est en anglais. Donc, nos playoffs qui ont commencé samedi dernier. La belle saison qui a commencé, qui vient avec le soleil, la chaleur. Voilà, on ne peut pas demander mieux.
Ben non, et voilà. Et on peut aussi t'écouter sur ton balado Overtime NHL qui est tous les jeudis, si je ne me trompe pas.
Ouais, ben là, ça va un peu changer, évidemment, parce qu'on va s'adapter avec les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. Mais oui, d'ailleurs, on te reçoit à l'occasion. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Tu es très apprécié en Suisse. Donc, voilà, on peut m'entendre aussi sur nos différents podcasts.
Toujours un plaisir d'être là. Merci encore, Jonathan, et à une prochaine, c'est assuré.
Ouais, à bientôt. Bye-bye.
Au revoir. Alors voilà, c'était l'entrevue avec Jonathan Fillion au sujet de David Reinberg. J'espère que ça replace un peu les choses en vue des débuts de Reinberg avec le Rocket de Laval. Bien évidemment, ce sera déjà va jouer du hockey assez important, merci, parce que le Rocket essaye de se qualifier pour les séries éliminatoires. Donc, ce sera à regarder. J'ai hâte de le voir à l'œuvre, mais bon, peut-être pas s'attendre à ce que ce soit une puissance offensive comme certains l'espéraient. Seb, on quitte Montréal, on quitte Laval, on quitte la Suisse, on revient.
Hey, on est des globe-trotteurs.
Oui, exactement. Là. Mais oui, Laval, globe-trotteur, là, de la ligne orange, d'un bout à l'autre. Là, quand on veut voir le monde, là, tu sautes dans la ligne orange.
Le boulevard de Laurentides, c'est magnifique.
C'est pas métropolitain. Boulevard des Laurentides, c'est quel?
Voilà, Laurentides, là, du côté de Pont-Vio, là, tu traverses à la station Henri-Bourassa, là où le métro arrêtait anciennement. Okay. Écoute, tu te ramasses sur Pont-Vio, tu montes boulevard de Laurentides. C'est le Tachereau du Nord, écoute.
Je ne sais pas pourquoi je te remets en doute, parce que je veux dire, toi, tu restes sur la rive nord. Moi, je reste sur la rive sud avec une ancienne attache à Trois-Rivières. S'il y a de quoi que je ne connais pas vraiment, c'est boulevard Saint-Martin. C'est ça que j'ai en tête.
Boulevard Saint-Martin, ça, c'est à Laval. Plus commercial. Oui, c'est à Laval aussi.
Okay. Bon.
Mais il y a quelque chose de beau à voir des fois sur le boulevard Saint-Martin, alors que le boulevard de Laurentides, c'est plus rustique un peu.
C'est une façon gentille de le dire. Seb, on revient justement du côté de la Ligue nationale de hockey. Bon, ce qui se passe en ce moment, quand même, là, on en parlait un petit peu dans l'intro, mais ça se resserre énormément la course dans l'association de l'Est pour une place en séries éliminatoires. Là, à ce moment-ci, lorsqu'on regarde le classement, au niveau des positions, les deux dernières positions. Premièrement, Lightning, ça va mieux. Là. Lightning, on est en train de se replacer. On a 4 victoires de suite, 80 points au classement. Je pense que lentement, mais sûrement, on commence à se faire en tête là, que le Lightning sera des séries éliminatoires. Du moins, ça regarde bien. C'est derrière là, qu'il y a beaucoup de questionnements. Flyers de Philadelphie, hier, qui ont remporté une belle victoire, 4-3 contre les Maple Leafs de Toronto. Ça vient arrêter une séquence d'insuccès chez les Flyers, ce qui a mené à une décision assez inattendue. C'est-à-dire que John Tortorella a décidé de retrancher le capitaine Sean Couturier hier. Ça va pas très bien pour Couturier. Je pense qu'il y a seulement un but en 27 matchs puis 6 passes là, durant cette séquence-là. Bon, on le sait, Couturier, premièrement, revient d'une saison où il n'a pas joué. C'est un joueur qui a beaucoup été ennuyé par les blessures. Donc, tu t'attendrais à ce qu'il y ait un peu de... Pas de pitié, là, mais tu sais, un peu de... On prend le tout en considération, puis on ne retranche pas notre capitaine, bien évidemment. Ce qu'on a décidé de pas faire du côté de John Tortorella. Bon, John Tortorella qui retranche un vétéran, ça, c'est pas nouveau. Je veux dire, c'est avec sa couleur, c'est avec ça qu'il a fait ses succès dans la Ligue nationale en étant extrêmement demandant. Il a aussi laissé Cam Atkinson sur les lignes de côté hier. Donc, je pense que le message est lancé pour les Flyers, parce que quand on regarde ce qui s'est passé, ce qui se passe au classement avec 78 points, les Flyers sont encore à la troisième place de la section métropolitaine. Mais c'est pas long que si tu perds quelques matchs, tu tombes hors des séries éliminatoires parce que les Red Wings de Détroit ont 76 points. Ça, c'est une autre équipe de l'Atlantique. Présentement, les deux positions de quatrième âge sont occupées par des équipes de l'Atlantique. Mais les Capitals de Washington s'en viennent rapidement. On a gagné hier. On est seulement à 3 points des Flyers avec justement 2 matchs en main. Les Islanders... Ça s'est calmé un peu, hein? L'effet
ça ralentit.
Beaucoup de hauts et de bas, cette équipe-là, on dirait, puis par séquence, là, c'est vraiment ce qu'on voit. Là. Au niveau même, il y a Sorokin là, qui parfois ça va bien, parfois ça va moins bien. Donc les Islanders sont encore dans le portrait, même si on a pris un retard assez important là, du côté de la troupe de Patrick Roy. Les Capitals, par contre, c'est intéressant. Hein, parce que je sais pas toi, mais moi, les Capitals et les Pingouins, je les avais mis sur ma liste d'équipes qui ne seront pas des séries éliminatoires à la mi-saison.
Bien, à la mi-saison, puis même, écoute, quand on a parlé au dernier balado ensemble, c'était après la date limite, quand tu fais des transactions pour te départir de joueurs comme Anthony Manta, quand tu fais des Jake Gunsel, les deux équipes s'étaient mis en mode, entre guillemets, vendeur. C'est sûr qu'on n'a pas tout liquidé, mais on a quand même envoyé sous d'autres yeux des joueurs qui étaient encore utiles à la formation. Donc, c'est un signal qu'on envoie qui habituellement laisse entendre que cette équipe-là a fait une croix sur la saison. On s'attendait un peu à ce que les Prédateurs empruntent le même chemin du côté de l'Ouest et disons deux ou trois semaines de la date limite. Puis finalement, on s'est mis à gagner, puis on a tout gardé nos joueurs, on a même fait des acquisitions. Donc, c'est le genre de signal qui envoie que okay, nous, on garde nos joueurs et on en va en chercher, bien, on pousse pour les séries. On va pas chercher de renforts et on se départit de joueurs qui nous aident encore, mais c'est une autre sorte de message. Il faut croire que les Capitals l'ont pris personnellement et on commençait à remporter des victoires de façon très, très régulière. Et puis, on grimpe au classement. Puis, au moment où on se parle, s'il y a une équipe sur laquelle là, je ne miserais absolument pas, c'est les Capitals de Washington.
Que tu ne miserais pas?
Contre ses chances de de faire les séries parce que on regarde comment cette équipe-là fonctionne présentement. Et puis bon, c'est sûr et certain qu'il y a un facteur plus que tous les autres qui explique leur succès, c'est le rendement de... Je ne parle même pas de leur gardien au pluriel, c'est leur gardien au singulier, l'ancienne gloire des Canadiens de Montréal, Charlie Lindgren. Mais bon, quand on regarde le portrait des séries, tu as parlé des Flyers. C'est une situation où tu as parlé de Tortorella qui laisse Couturier de côté. Couturier qui n'a pas l'air de savoir nécessairement pourquoi il est laissé de côté.
Non, visiblement, ça, il n'a pas apprécié le tout. Son agent a fait une sortie. Quand l'agent fait une sortie, c'est rarement bon signe au niveau de comment le joueur se sent. Là.
Exact. Lui il le fait pas. Lui, il le fait pas, mais ça. Passe par son agent.
C'est ça, exactement.
Puis, c'est ça que tu as parlé. Bon, le Lightning, même, on a parlé hier, les Flyers contre les Maple Leafs. Les Flyers, tu sais, des fois, c'est le bon lien technique à la Scotty Bowman. Tout le monde me déteste dans le vestiaire, ben ça va les resserrer. Donc, hier, les Flyers qui ont disposé des Maple Leafs, les Maple Leafs doivent commencer à regarder dans leur rétroviseur pour le Lightning à 5 points seulement. Mais les Flyers, eux aussi, dans leur rétroviseur, les Red Wings, c'était très pénible récemment, mais les Capitals, eux, ça s'en vient pas juste un peu. Puis c'est eux qu'il faut qu'ils regardent parce que tant aussi longtemps que les Flyers restent en troisième rang de la section métropolitaine, mais ils n'ont pas associé les Red Wings, ils n'ont pas associé du Lightning. C'est les Capitals et les Islanders qui doivent occuper leur pensée. Et les Capitals, ben écoute, c'est le jour et la nuit par rapport à ce qu'on aurait pu parler d'eux là, il y a un mois environ.
Tu parlais de Charlie Lindgren, vraiment, c'est toute une émergence de la part d'un gardien qu'on n'a jamais vraiment pris au sérieux, je pense, à Montréal. Corrige-moi si je me trompe, mais ça n'a jamais été dans l'organigramme du futur à long terme du côté de Lindgren. Mais ses statistiques, depuis le début de la saison, ça allait très bien pour Charlie Lindgren dans un rôle d'abord secondaire, puis en tandem avec Darcy Kemper. Et là, regardez ses 8 derniers matchs, fiche de 6-2-0, moyenne de buts alloués à 1,76, 940 de taux d'efficacité, un jeu blanc sur le tas. C'est un gardien, tu sais, on dit souvent, là, puis on parle souvent de Caden Primo là, à Montréal, ou même Samuel Montembeau, que le poste de gardien de but... Ne pas juger un gardien de but avant l'âge de 25 ans, mais Lindgren, il a 30 ans et c'est là qu'il commence à lever. À vrai dire, ça a commencé un peu plus, je dirais, chez les Blues de Saint-Louis en 2021-2022. Il était venu jouer 5 matchs dans la LNH et avait très bien performé, ce qui lui a permis de s'entendre avec les Capitals de Washington l'année dernière. Saison. Ça n'allait pas bien, de toute façon, pour les Capitals l'année dernière. Là, tu ne peux pas demander un miracle non plus. Là. Souviens-toi qu'on avait. On avait même dit au revoir à Vanecek et au revoir à Samsonov avant le début de cette saison-là. Donc, l'arrivée des... C'était plus difficile pour les gardiens, bien évidemment, du côté de Washington. Mais cette année, écoute, 18-11-5, 2,59, 915, 4 jeux blancs, c'est des chiffres de numéro 1 pour Lindgren.
Oui, puis comme je vais revenir un petit peu là, sur tout ton beau préambule. Faut vous dire que Charlie Lindgren à Montréal était là dans l'ère Carey Price. Donc, tous les gardiens qui sont passés par Montréal, qui avaient l'étiquette de futur prometteur, puis de bon espoir, mais il y avait le bloc de béton devant eux qui était Carey Price, que peu importe ce qu'il faisait comme performance, il était bloqué. Donc, c'était bien pour l'organisation, moins bien pour les jeunes gardiens de l'organisation qui essayaient de cogner à la porte. Puis on faisait souvent confiance à des vétérans pour seconder Carey Price. Donc, des joueurs comme Charlie Lindgren devaient se développer dans la Ligue américaine et espérer être échangés ailleurs pour avoir une chance.
Et malheureusement, ça aura probablement coûté quelques années de carrière à Carey Price parce qu'on va l'avoir surmené. Et j'ajouterais quelques choix de deuxième, troisième ronde. Moi, l'exemple qui me vient souvent en tête, c'est Philip Grubauer, qui avait rapporté, je pense, un choix de deuxième et troisième ronde aux Capitals de Washington parce qu'il avait joué un peu, avait démontré des belles choses, était derrière Braden Oldby, souviens-toi. Et l'Avalanche avait fait, écoute, on a besoin d'un gardien, on pense qu'il peut être numéro un, tu l'échanges. Tandis qu'à Montréal, on ne donnait pas tant de jeu à nos numéro 2, numéro 3, et on ne pouvait pas les échanger.
Mais tous ces gardiens-là, que ce soit les Samsonov, les Grubauer, ont dû profiter d'une blessure à un certain moment pour avoir une chance. C'est là, il y en a qui sont des gardiens
Oldby, c'est parce qu'il ne jouait pas bien, je me souviens bien.
Et ça, mais ce qui n'est pas arrivé à Carey Price en série, par exemple.
C'est ça, oui, exact.
Puis
exactement.
Quand il est arrivé, là, Charlie Lindgren, bon, un passage à Saint-Louis, quand il est arrivé à Washington, on venait tout juste d'embaucher Darcy Kuemper comme gardien numéro un. Quand on vient tout juste d'embaucher un gardien numéro un, on l'a vu avec les Oilers et Jack Campbell l'an dernier, malgré le fait qu'il y avait des statistiques bien en deçà de Stuart Skinner. Ça a été long avant qu'on le tasse complètement. Même chose avec Darcy Kuemper l'année dernière. Ça n'allait pas super bien, mais on est quand même resté avec lui. Pas beaucoup de matchs à Charlie Lindgren. Mais là, cette année, on est en train de se dire, bon, regarde, la saison, ben on commence à faire une croix dessus. Ben, donnons plus de départ à Charlie Lindgren. Mais là, c'est à ce moment-là que
le vent a tourné.
Le vent a tourné pour l'équipe au complet. Puis comme tu dis, depuis le début du mois de mars, ben Darcy Kuemper a seulement eu un départ et ça vraiment pas bien été. Charlie Lindgren a été d'office pour les 8 autres matchs avec une fiche incroyable. 6 victoires, 2 défaites, 940 de taux d'efficacité, 1,76 de moyenne, un blanchissage. Donc, depuis le début du mois de mars, la raison pour laquelle les Capitals sont revenus dans la course, c'est essentiellement le rendement de Charlie Lindgren.
Et là, bon, là, t'as un dilemme un peu parce que tu veux pas le brûler d'un côté. C'est un gardien qui a pas l'habitude de jouer 9 matchs sur 10, 8 matchs sur 10, bien évidemment. Mais en même temps, il est somme toute reposé parce qu'en début de saison, c'est lui qui jouait moins. Donc, on verra bien. Mais visiblement, du côté de Washington, on a décidé d'y aller avec Charlie Lindgren. Je comparais un peu, Seb, la difficulté du calendrier restant chez les Capitals, où on se situe par rapport aux autres équipes de la Ligue, puis surtout les autres équipes qui sont à nos trousses ou qu'on tente de rattraper, tout simplement. Et ce ne sera pas facile pour les Capitals parce qu'on a la quatrième cédule la plus difficile selon les pourcentages de points moyens de nos adversaires. Devant, il y a seulement les Bruins de Boston, les Canadiens. Donc, les Canadiens, ça se peut que ça soit un peu long comme fin de saison. Les Blue Jackets. Et ensuite, c'est Washington. Je regardais un peu Détroit. Détroit n'est pas très loin, par contre. Donc, eux aussi, les Islanders et les Flyers aussi sont dans cette course. Je n'ai pas le chiffre exact, mais ils sont dans le top 15. Par exemple, des plus difficiles. Donc, d'ici à la fin de la saison. Donc, somme toute, cette course-là, ça ne sera pas facile pour Washington, mais on n'est pas tant désavantagé par le calendrier face à nos adversaires. Donc,
même que, pour revenir au point de Charlie Lindgren et à quel point il était occupé, depuis le début du mois de mars, les Capitals ont eu une seule séquence de 2 matchs en 2 soirs. Il n'y en aura seulement que 2 autres d'ici la fin de la saison. Donc, au moins un soir de repos entre chaque match, sauf 3 pour les Capitals. Donc, si jamais on décide d'y aller avec Charlie Lindgren, il y a moyen de lui donner l'essentiel des départs d'ici la fin de la saison, si, évidemment, il continue à faire le travail de façon aussi exemplaire.
Oui, et autre point intéressant, les Capitals sont la seule équipe parmi les 4 que j'ai nommées, là, donc Washington, Détroit, New York, les Islanders de New York et les Flyers, à jouer plus de matchs à domicile qu'à l'étranger. On va avoir du côté Washington 9 matchs à domicile, 6 à l'étranger, alors que les autres équipes, là, c'est majoritairement à l'étranger. Donc, c'est jamais facile quand on va sur la route. Donc, ce sera à s'ajuster. On verra bien ce que. On va avoir une course aux séries. C'est surtout ça que je suis plutôt content là, du côté de cette année. On n'en a pas toujours eu une. On poursuit, Seb. On parle de course aux séries éliminatoires. Une équipe qui se retrouve. C'est la ligne extérieure, là, mais là, on est très, très, très dans la ligne extérieure du côté des Penguins de Pittsburgh. On est présentement là, en septième place de 4e as. À 5, ça se dit pas bien. Ça se résume très mal. Là, mais disons qu'on est 5e position hors des séries éliminatoires. Bref, on se rapproche plus de ce que les Canadiens font que ce que les Red Wings font en ce moment. Les Penguins qui ont seulement 3 victoires à leurs 10 derniers matchs. Tu l'as dit tantôt, on a été vendeurs à la date limite des transactions. On a 69 points. Et avec les équipes qu'on a entre nous, les Devils des Sabres, pour rajouter à toutes celles qu'on a dit tantôt, bon, premièrement, on ferme la porte aux séries éliminatoires, t'es d'accord?
Ouais, disons que rendu là, ça serait optimiste avec des lunettes roses un peu de penser qu'on va non seulement combler un écart de 7 points avec les Red Wings, mais aussi de penser et les Devils et les Sabres et les Islanders et les Capitals et au moins une des équipes qui sont présentement en série. Donc oui, c'est on a envoyé le message, déjà on a parlé tout à l'heure, on a envoyé le message à la date limite des transactions qui... En se départissant d'un Jake Gunzel, c'est le genre de message qu'évidemment, on pense à l'avenir. On se tourne vers l'avenir, pas vers le présent. Rien contre Michael Bunting, mais je pense que les chances des Penguins de faire des séries cette saison auraient été beaucoup améliorées avec Jake Gunzel dans la formation. Donc, on a un problème à marquer des buts présentement. On poivre les gardiens adverses. On les canarde de rondelles et il n'y a rien qui rentre présentement. D'effectuer un virage à 180 degrés à ce moment-ci de la saison va être très difficile, disons. Là. Réalistement, il faut commencer à regarder vers l'avenir et non vers le printemps.
Alors, regardons vers l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer à Pittsburgh? Parce qu'on se retrouve vraiment pris dans une situation qui est peut-être même plus difficile que celle des Red Wings de Détroit, alors qu'on s'accrochait à Pavel Datsyuk, on s'accrochait à Henrik Zetterberg avant de finalement piquer du nez. Et on a piqué quoi, les Red Wings? Là, ça fait 6-7 saisons là, qu'on n'est pas des séries éliminatoires. Revenons sur ce qui s'était passé là, durant l'été dernier. Carl Dubas qui arrive. Comme directeur général, va chercher Erik Karlsson. Quand on repense à cette transaction-là, parce que je trouve qu'Erik Karlsson a beaucoup le rôle du responsable de cette baisse de régime des Penguins, alors que je continue de croire, je vais te demander ton opinion avant, puis après ça, je te contredirai probablement, mais je maintiens que c'était une bonne décision de la part de Carl Dubas d'aller chercher Erik Karlsson.
Écoute, tu ne vas pas me contredire parce que je comprends l'objectif. Derrière, on a ciblé un joueur qui était, quelques mois auparavant, de loin le meilleur défenseur de la Ligue nationale, remporté le trophée Norris, saison de 100 points avec une équipe des bas-fonds.
Oui.
La logique derrière l'acquisition d'Erik Karlsson. Vous avez imaginé s'il est capable de faire ça avec les Penguins, avec les Sharks, qu'il va être capable de faire avec des Sidney Crosby et Emile Malkin. Et l'idée, je pense que l'idée n'était pas qu'il fasse 100 points avec les Penguins. C'était pas ça qu'on cherchait, mais on cherchait à faire en sorte d'avoir deux défenseurs qui allaient passer environ 50 minutes par match là, à deux sur la glace, qui allaient être capables d'alimenter la relance. On a passé beaucoup de temps les dernières années dans notre territoire. On était plus capable de générer de l'attaque. Veux pas, le noyau d'attaquant est vieillissant. On avait besoin d'un peu plus d'aide derrière pour le remettre la rondelle devant. On était plus capable d'aller peut-être se regrouper pour aller chercher la rondelle, générer de l'attaque par eux-mêmes comme ils l'ont fait pendant plusieurs années. Donc, d'aller chercher peut-être le meilleur défenseur offensif au moins de la dernière année, un des meilleurs de sa génération. C'était logique, effectivement. Moi aussi, je trouve que c'était logique. Ça s'inscrivait dans l'objectif à court terme de gagner avec ce noyau-là. C'était la meilleure chance que Dubas voyait que c'était le meilleur move qu'il pouvait faire à court terme pour soutenir son noyau dans les dernières années.
C'est très rare que tu vas chercher le gagnant du trophée Norris puis tu te fais critiquer. T'sais, on est vraiment dans une époque de plafond salarial, là, de masse salariale à surveiller, puis ça en est la preuve. Mais moi, je maintiens, puis je vais tout le temps revenir là-dessus. Carl Dubas, il arrive comme directeur général. Il voit ce qu'il a devant lui. Sidney Crosby, son contrat va prendre fin prenait fin 2 ans plus tard. C'est au moment où Carl Dubas arrive. Christopher Le Temps, qui est encore sous contrat pour plusieurs saisons. Evgeny Malkin aussi. T'as cette royauté-là, là, ce noyau qui t'a donné tellement. T'as au deuxième étage un nouveau groupe de propriétaires, le Fenway Group, qui t'embauche. Comment tu peux arriver et dire « Non, mais on va tout détruire. Là, c'est le temps de reconstruire tout de suite. » C'est sûr et certain que Carl Dubas n'avait pas le drapeau vert pour amorcer cette reconstruction-là. C'est sûr que la mission qui s'est fait donner en partant, c'est « Écoute, on a un bon coach, on a des bons joueurs, on a raté les séries éliminatoires par un point l'année dernière. Bouge un peu, puis on est capable encore. » Là. Et on était chercher Rick Carson, qui n'a pas coûté très cher. Parce qu'il y en a plusieurs qui disent, au lieu de payer ce qu'on paye, 11 millions pour Rick Carson, on aurait pu aller chercher 3 joueurs. Oui, mais ça aurait coûté pas mal plus cher d'aller chercher des joueurs de qualité, bon, à 4 millions, là, à 3 millions, avec ce qu'on avait aussi comme élément pour payer. Là.
Exact. Et il fallait aussi se débarrasser du salaire, exemple, de Jeff Petrie. Le statu quo faisait en sorte qu'on avait encore le salaire de Jeff Petrie. Il fallait se débarrasser de plusieurs haut salaire pour embaucher d'autres joueurs. Donc, c'était pas une situation évidente pour améliorer l'équipe à très court terme de façon soutenable. Là, c'était pas juste là un joueur de location. Là. On se disait, il va accompagner notre noyau pour les dernières années de ce noyau-là. C'est pas juste une saison où on met tous nos œufs dans le même panier. Ça va être plusieurs printemps qu'on va pouvoir faire, plusieurs saisons avec Erik Karlsson. Ça s'est un peu retourné contre eux. Un peu beaucoup parce que bon, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et ce n'est pas uniquement la faute à Erik Karlsson, comme ce n'est pas uniquement la faute à Sidney Crosby ou à Evgeny Malkin. L'équipe en entier, qui a manqué les séries éliminatoires par un point l'an dernier, comme tu as dit, a pris un pas de recul cette année.
Le déclencheur est là. Hein? J'ai l'impression que si les Penguins sont en série l'année dernière... Il y a une aura de positivité plus forte. Pour ceux qui ne se souviennent pas, là, c'était une défaite contre la deuxième pire équipe de la Ligue, les Blackhawks de Chicago, lors du dernier match où, honnêtement, je l'ai regardé ce match-là puis je trouvais que les Pingouins étaient sans réponse. On dirait que ça a commencé, la vague de négativité, la vague d'insuccès qui s'est amorcée dès le départ et ça s'est poursuivi. Alors, on se retrouve là, et là, tu l'as dit, on a échangé Jake Guentzel. Bon, Guentzel, tout ça, ce qui s'est passé, ça lui a envoyé le signal. Je ne serai pas, probablement pas de retour. Je ne pense pas me réentendre avec cette équipe-là, tout simplement parce que, d'un, au niveau salaire, on est un peu pris à la gorge. Et de deux, on est sur une pente descendante, donc je ne vais pas signer un contrat de 8 ans à Pittsburgh en sachant que ces 8 années-là vont probablement être une reconstruction. Mais là, ce que je te demande, Seb, c'est, avec ce qu'on a vu cette année, la fin de la saison dernière... Est-ce que Carl Dubas, selon toi, obtient les coups des franges pour rebâtir? Peu importe comment il va le faire.
Ben, écoute, il a déjà annoncé que Sidney Crosby n'allait probablement pas être d'accord avec toutes les décisions qu'il allait prendre dans les prochaines semaines, prochains mois. Par là, il faut entendre que ce ne sont pas des décisions qui vont améliorer l'équipe nécessairement à court terme. Parce que, tantôt, tu as fait un parallèle avec les Red Wings. Bon, quand on s'est accroché jusqu'au bout avec Zetterberg, avec Datsyuk, quand on regarde c'est qui s'amenait à l'époque, quand les Red Wings ont participé, à la dernière saison des deux joueurs ensemble, on avait participé aux séries, on avait fait une ronde, mais derrière eux, la relève, c'était Dylan Larkin, 19 ans, qui avait une bonne saison recrue, Anthony Manta, 20 ans, Andreas Athanasiou, qui avait été repêché, qui montrait des belles choses. On avait Peter Mrazek devant les buts, un jeune gardien qui était en train de tout détruire dans la Ligue américaine, qui avait des bons débuts dans la Ligue nationale. On avait quand même une relève qui pointait le bout du nez puis qui pouvait laisser entendre que la transition allait bien se faire. Et là, je vous dis ça, et il ne faut pas oublier que depuis cette année-là, les Red Wings n'ont quand même pas fait les séries. Donc, malgré le fait qu'on avait une relève foisonnante, entre guillemets, donc ils n'étaient pas, ils ne laissaient pas entendre que ça allait être la catastrophe quand Zellerberg et Datsyuk et Lidstrom et bon, tous les, ce noyau-là est parti. On n'a jamais refait les séries par la suite. Donc, à Pittsburgh, de dire...
Il n'y a même pas cette relève-là
à Pittsburgh. Non. Donc, de penser que ça va aller mieux, c'est vraiment... Il faudrait qu'il y ait un développement et un repêchage en ronde tardive exceptionnel de la part des Pingouins, parce que là, présentement, c'est très, très mince, la banque d'espoir des Pingouins. Est-ce que... On parle beaucoup, là, à partir du 1er juillet, Sidney Crosby va avoir le droit d'accepter une nouvelle entente. Est-ce qu'on va vouloir régler ce dossier-là rapidement?
Je suis persuadé. C'est ça que je te demande. Là. Puis là, on va jouer à se mettre à être Kyle Dubas. On va se mettre dans, je ne veux pas dire dans les culottes de Kyle Dubas, là, mais dans son veston au minimum. Là. Tu arrives à cet été, le 1er juillet est passé, tu veux négocier avec Sidney Crosby pour une prolongation de contrat. Et il te répond, je vais attendre à la fin de la saison. Qu'est-ce que tu fais? Parce que là, il faut le dire, par contre, les mains à Dubas sont attachées parce que et Crosby, et le temps, et
Malkin
ont des clauses de non-mouvement.
Ouais.
C'est la même chose pour Carson, clause restreinte. Là. Bon, Carson pourrait techniquement changer d'adresse. Si Crosby, tu ne peux pas t'entendre avec lui immédiatement, est-ce que pour accélérer, juste, je vais dire même amorcer cette reconstruction-là, tu tentes de le convaincre d'aller jouer ailleurs tout de suite ou au final, ce ne sera pas la décision à Kyle Dubas?
Ça ne lui reviendra pas au final, dans le sens où Sidney Crosby a gagné le droit. En fait, je pense que toutes les parties concernées, incluant Sidney Crosby, incluant l'organisation des Pingouins, veulent que l'association entre Sidney et les Pingouins se poursuive. Les données vont changer si Sidney Crosby se présente un matin au PPG Paints Arena et dit « Écoutez, j'aimerais avoir la chance d'évoluer ailleurs, aller chercher une autre Coupe Stanley, un autre champion de la Coupe Stanley avant de prendre ma retraite. » À ce moment-là, Kyle Dubas pourra explorer ses options. Mais jusque-là, et c'est vrai pour Sidney Crosby, c'est vrai pour Christopher Letang, c'est vrai pour Evgeny Malkin, ces joueurs-là ont non seulement leur destin entre les mains grâce à leur clause de non-mouvement, mais aussi un sentiment de fidélité autant envers l'organisation que l'organisation envers ses joueurs.
Ouais, exact.
Donc, de se départir comme Michael Jake Gunzel faisait partie de ce noyau-là. Par contre, c'était le seul élément qui pouvait servir.
C'était le seul élément qui était volatile.
Exact.
Parce que c'était le seul élément qu'on n'avait pas sous contrat pendant encore plusieurs années. Là.
Il n'avait pas de restrictions quant à son au contrôle de sa destination, puis qui avait une véritable valeur de ce qu'on pouvait avoir au niveau des actifs. Bon, on a eu
peut-être même moins élevé, c'est ça. On a pas
une poignée d'espoir, des choix conditionnels. Donc, on n'a pas eu la panacée là, du côté du retour qu'on a eu pour Jake Gunzel. Ben, c'est sûr que si un Sidney Crosby se retrouvait sur le marché, il y aurait de l'intérêt parmi toutes les équipes qui sont
assurées,
qui sont dans la course le moindrement pour une coupe pour la Coupe Stanley. Donc, la situation dans laquelle se trouve Kyle Dubas ressemble beaucoup à celle qu'il a laissée chez les Maple Leafs avec un noyau.
C'était mieux chez les Maple Leafs, ça, quand même. Là.
Oui, mais ce que je dis, c'est qu'on a un noyau dont il faut qu'il assure l'avenir de cette équipe-là avec un noyau qui est sous contrat pour une encore courte période de temps, mais les succès vont passer que par le rendement de ces joueurs-là. Bon, oui, évidemment, les joueurs étant beaucoup, entre guillemets, beaucoup plus jeunes à Toronto, peut-être un
personnel de soutien.
Exact, mais les autres étant dans la fleur de l'âge. Donc, on est ailleurs, mais c'est la même situation où il doit jongler avec des hauts salariés qui... là, c'est pas de savoir est-ce qu'on les échange avant la fin de leur contrat ou on leur donne une prolongation de contrat de 5, 6, 7, 8 ans. Là, c'est de savoir est-ce qu'on les échange avant la fin de leur carrière. sachant qu'on ne pourra pas gagner, même si on les entoure du mieux qu'on peut. Non, c'est une situation qui n'est pas facile pour Carl Dubus.
Et là, je te demande si Crosby accepte d'être échangé, est-ce que les deux autres dominos suivent? Est-ce que Crosby est le premier domino vers un exil? C'est-à-dire, si Crosby accepte de partir, c'est la fin pour notre noyau. Là. On ne le saura pas, bien évidemment, mais à vrai dire, c'est que ça se pourrait que ça fasse ça. Ça se pourrait que... Mais c'est des contrats qui sont beaucoup moins. Écoute, Christopher Le Temps, il est sous contrat pour encore 4 ans, là, 6 millions.
4 autres années, à un joueur de 36 ans.
Et il fait beaucoup d'erreurs. Je ne sais pas si c'est l'arrivée d'Eric Carson qui a changé son rôle un peu puis qui lui met de la pression, je ne sais pas, mais Christopher Le Temps est beaucoup, beaucoup moins stable cette année, fait beaucoup plus d'erreurs. Il sait, là, tu le vois dans son non-verbal aussi sur la glace, là, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose, on le voit là, vraiment que Christopher Le Temps, c'est beaucoup plus difficile pour lui cette année.
Ben, il y a eu, hein, tu sais, juste à penser au match contre les Canadiens, le dernier match entre les Pingouins et les Canadiens, une passe sur la palette dans l'enclave de Christopher Le Temps, et c'est arrivé à quelques reprises. On dirait que ces revirements sont plus coûteux, on dirait, que la moyenne des ours. De dire que si tout passe par Sidney Crosby, est-ce que si lui décide de mettre fin à son association, le sentiment là, de fidélité dont on a parlé tantôt, est-ce qu'il va s'effriter? Assurément, il ne faut pas oublier que c'est Sidney Crosby qui a travaillé très, très fort pour qu'on accorde une nouvelle entente à Evgeny Malkin, qu'on accorde une nouvelle entente à Chris Letang.
Particulièrement Malkin, ça s'était réglé la veille, je pense, du début de la période des joueurs autonomes. Là.
Oui, Chris Letang, c'était juste avant le repêchage à Montréal. Ouais. Evgeny Malkin, ça avait été pris un peu plus de temps. On semblait penser qu'il allait finalement explorer le marché des joueurs autonomes. À la toute dernière minute, ça s'est réglé. Donc, et c'était tout ça sous l'impulsion du travail dans l'ombre de Sidney Crosby. Donc, si Sidney Crosby devait annoncer à Carl Dubus qu'il accepterait d'aller jouer sous d'autres cieux, ben, ce serait pas trop, farfelu de penser que les autres joueurs derrière prendraient des décisions. T'sais, un joueur comme Chris Letang a joué à Pittsburgh toute sa vie. C'était important pour lui de jouer à Pittsburgh toute sa vie. Peut-être que ça va être la même chose pour Sidney Crosby, mais s'il y en a un des trois mousquetaires qui décide qui lève la main et qui dit « Regarde-moi, finalement, je comprends. » Puis ça peut être des fois pour le bien de l'organisation.
Ouais.
Si vous avez été capable de avoir quelque chose pour mes services, ben allez-y, merci beaucoup. Puis des fois, ça va être quelque chose de réciproque. Mais c'est sûr et certain que s'il y en a un dans l'eau, ben les autres doivent commencer à regarder leur propre situation et se dire « Ouais, ben écoute, s'il reste que deux, si je suis seul… »
C'est d'ailleurs ce qu'avait fait Jaromir Jagr à une autre époque. Il racontait ça l'autre jour, puis il avait dit, écoute, je voyais que l'équipe, financièrement, c'était plus difficile. À l'époque, c'était financièrement. Maintenant, c'est le plafond salarial qui est l'obstacle à Pittsburgh, là, parce que la concession va beaucoup mieux qu'au tournant des années 2000. Puis Jagr avait dit, écoute, Mario Lemieux venait de revenir. Bien évidemment, on ne savait pas ça allait être pendant combien de temps, mais si on se dit que Mario Lemieux, c'était Sidney Crosby, bien, Jagr avait dit, écoute, pour le bien de l'équipe, si vous voulez signer d'autres joueurs, si vous voulez vous relancer, moi, je vais accepter une transaction. Puis c'est ce qui s'était passé. Ça s'était fait avec les Capitals de Washington. En terminant, Seb, quand tu regardes cette saison-là de Sidney Crosby, je te pose la question suivante. Dans 2 ans, les Jeux olympiques, il est dans ton équipe ou il n'est pas dans ton équipe?
Oui, je pense que c'est même pas un soupçon de doute. Sidney Crosby va être aux Olympiques. Il serait sur mon équipe, en tout cas.
Il serait sur la mienne aussi.
Si je suis le DG, c'est sûr et certain que je trouve une place pour Sidney Crosby. Puis, juste avoir son rendement cette saison. Malgré les déboires de son équipe, Sidney Crosby est encore un joueur d'élite dans la Ligue nationale. Donc, entouré d'une équipe canadienne qui va regorger de grandes vedettes, je vois pas comment on pourrait se passer des services d'un gagnant et d'un leader comme Sidney Crosby. Donc c'est assuré. Et puis l'idée de voir enfin aux Jeux olympiques un Sidney Crosby avec un Connor McDavid au sein de la même formation.
Avec Nathan MacKinnon sur le même trio. MacKinnon. Ils vont mettre les deux gars de Cole Harbour ensemble, puis ça va faire des flamèches, à mon avis. Hey Seb, merci d'avoir été sur le balado cette semaine.
Ben, merci à toi, Nicolas, de m'avoir reçu.
C'est toujours un plaisir. Donc, prochain épisode la semaine prochaine. Guillaume et Jean-François JF devraient être avec nous. Merci à Jonathan Fillon qui était avec nous plus tôt dans l'émission. Chers auditeurs, ben, écoutez, suivez-nous, réseaux sociaux, LNH, LNH, barre de soulignement FR sur Twitter et sur Instagram et sur Threads aussi, même. On est sur Threads. Faites le tour. On a plusieurs histoires intéressantes présentement, dont Jonathan Kovacevic qui nous raconte qu'il a appris à parler le français quelque peu et ça roule présentement. Là. Je ne veux pas dire viral, là, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais c'est très intéressant comme texte à lire. Et bon, ben, tout ça avec les séries éliminatoires qui se rapprochent. Il y a plusieurs choses que vous pouvez lire. Suivez-nous, suivez l'action sur nos réseaux sociaux. Vous n'allez rien manquer. Seb, merci encore d'avoir été là aujourd'hui. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.